deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
Bon vendredi tout le monde, on est à deux, c'est mieux. Très content de le recevoir aujourd'hui pour la première fois, Joël Legendre.
Salut. Bonjour Luc.
Comment vas-tu?
Hey, là, je suis content, je suis arrivé. Mais ça n'a pas été évident de me rendre à Sorel.
Puis t'aimes pas ça être en retard, toi?
J'ai eu à être en retard, puis j'étais pogné sur le traversier. Mais ils ont été super gentils parce qu'ils m'ont fait passer, même s'ils avaient fermé les barrières, ils ont réouvert les barrières pour que je puisse entrer. Sinon, je ne serais pas là présentement en train de te parler puis de manger la meilleure soupe au pois que j'ai jamais mangée de ma vie.
Donc, si on t'a à l'heure, c'est grâce aux gens du traversier.
C'est grâce aux gens du traversier, alors je veux les remercier. Oui, pour les applaudir.
Ils ont même une main d'applaudissement à part
exact.
Des gens.
Moi, j'ai même pas eu ça quand je suis arrivé.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais tout le monde mangeait, je comprends. J'ai pas pris ça personnel.
Joël, je disais tout à l'heure, premier livre, parce que tu as fait des livres de recettes,
oui.
Mais là, on est dans autre chose complètement.
Oui.
Un livre de croissance personnelle.
Oui, développement personnel, oui.
Mais c'était pas prévu, ce livre-là. Toi, c'est arrivé comme par hasard.
Exact. C'est arrivé en juillet dernier, plein milieu d'une nuit, je me réveille et j'ai le mot « réconfort » en tête. Puis là, je me dis, c'est-tu bizarre, le mot « réconfort » puis bref. Fait que le matin, le lendemain matin, je me réveille, puis je commence à cuisiner une lasagne. Je me dis, tiens, c'est vrai, c'est réconfortant, tu sais, ça me rappelle ma grand-mère. Fait que je cuisine ma lasagne, puis là, ça sent bon dans la maison, puis j'ai réconfort. Hey, c'est vrai qu'on parle pas souvent du réconfort, mais tu sais, un réconfort, quand on vit des épreuves, réconfort de notre famille, de nos amis, des gens qui sont proches de nous, sans ce réconfort-là, je pense qu'on pourrait... Personne ne pourrait passer à travers les épreuves qu'on vit chacun à notre tour, que ce soit de la maladie, que ce soit, peu importe, un deuil qu'on a à vivre dans une vie, on a besoin d'être réconforté. Alors, je me suis dit, tiens donc, je vais me mettre à écrire sur le réconfort, mais ne pensant pas que ça allait être publié. Donc, j'écrivais pour mes
toi?
Enfants.
Okay.
Ben, pour moi d'abord, mais aussi pour mes enfants. Je dis, tiens, je vais leur léguer l'héritage d'un père qui, il y a 4 ans, est tombé, puis qui s'est relevé. Puis, donc, c'est de ça que j'avais envie de parler. Et leur léguer ça. Donc, le livre, je parle aussi de mes enfants à travers le livre, mais donc, tranquillement, pas vite, je me suis dit, tiens donc, ça me fait du bien à moi aussi de parler du réconfort, puis de démystifier, hein, parce qu'il y a 3 sortes de réconfort. Il y a le réconfort qu'on donne aux autres. Ça, on est toujours bien bon pour ça, en général. Tu t'écoutes même pas, puis quelqu'un te demande, puis tu vas le réconforter. Le réconfort qu'on reçoit, mais le réconfort le plus difficile à apprendre, je trouve que c'est le réconfort qu'on va se donner à soi-même. Ça prend plusieurs années avant d'être capable de... OK, qu'est-ce qui me réconforte, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour moi? Ça, on le fait souvent pour nos enfants, pour nos conjoints, pour... Mais arriver à le faire pour nous sans culpabilité, ça, c'est pas évident. Alors, je donne quelques petits trucs dans ce livre-là et je parle surtout des bienfaits du réconfort.
On dit souvent que l'écriture est thérapeutique.
Oui.
Toi, évidemment, tu avais fait déjà des thérapies. Est-ce que ça a ajouté
c'est
à
sûr.
Tes thérapies, l'écriture?
Oui, j'appelle ça la guérison par le crayon. Donc, écrire, peu importe, c'est sûr que ça fait du bien. Ça libère, premièrement. Et je pense qu'on fait pas trop la promotion de l'écriture parce que ça rapporte à personne. Tu sais, parce que ça coûte rien,
non, non.
Écrire. C'est une feuille de papier puis un crayon. Puis même, je dirais que de plus en plus aujourd'hui, on délaisse beaucoup le papier, le crayon. On est beaucoup à l'ordinateur. C'est pas la même affaire. Oui, pour écrire un livre, ça va, mais écrire des états d'âme, des émotions, tu te sens pas bien un matin, juste écrire. Souvent, ça clarifie ta pensée. Tu le sais même pas avant d'écrire ce que tu vis dans ta tête. Et en écrivant, tout à coup, ça devient plus clair. Alors, c'était mon désir d'écrire, mais je pensais pas que ça me ferait autant de bien, une telle libération à écrire.
Quand tu as commencé à l'écrire, personne ne le savait dans la maison que tu écrivais, parce
c'est
que
vrai.
Tu faisais ça la nuit, même ton conjoint ne le savait pas.
Personne ne savait.
À quel moment tu as décidé de le montrer?
Quand j'ai eu 100 pages. Quand j'ai eu 100 pages d'écrire, je me suis dit, il me semble que... J'ai envie de faire lire ça à mon conjoint, voir qu'est-ce qu'il pense de l'écriture. Puis je parlais de lui à travers ça, je parlais de mes souffrances, de mes joies, des enfants. Fait que je lui ai fait lire ça et il est tombé là-dedans. Puis quand il a eu terminé les 100 pages, je me dis « faut que tu publies ça. Ça va faire du bien à plein de gens. » Puis je lui ai dit « bah oui, OK, parfait. » Fait que j'ai continué à écrire, mais là, avec la notion que peut-être j'allais présenter ça à une maison d'édition. Donc, je me suis mis à faire des chapitres, à plus structurer ma pensée et mes écrits. Et quand j'ai eu terminé, donc quelques semaines plus tard, je suis allé présenter ça aux Éditions de l'Homme. Et quelques secondes après, j'avais un contrat d'édition à ma grande surprise, mon grand bonheur.
Est-ce qu'il y a un vertige quand on sait que ça va être lu? Parce qu'au départ, c'était pour tes enfants, c'était pour ton chum, ton entourage.
Oui.
Là, de dire... Ben, y a des gens que je connais pas là, qui ouais. vont lire ce que j'écris.
Et ma mission première, moi, c'était de ne rien changer. Pas parce que c'est publié que je vais être tout à coup que plus censurer, pudique ouais. ou je vais me censurer. Donc, ce que j'avais écrit, j'ai dit ça va rester comme ça et je ne changerai rien à ça. Et ensuite, il y a une éditrice qui nous est attitrée. Donc, avec elle, on a retravaillé certaines choses, mais quand même pas tant que ça, mais on a retravaillé ensemble pour que ça ait du domaine de l'édition, des tournures de phrases. Je suis quand même pas... j'ai un bon français, mais on a toujours à apprendre puis à améliorer. Bref, son œil extérieur a été très important pour moi. Puis, je te dirais que le vrai vertige, pour répondre à ta question, c'est quand il est arrivé chez nous dans une boîte.
Avec tous les livres finis.
Oui, il y en avait comme 16. Et là, j'ai ouvert la boîte et là, j'ai vu le livre et je l'ai tenu dans mes mains. Puis là, j'ai fait « Oïe, oïe, là, je peux plus reculer. » C'est fait, je me lance. Puis, parce que c'est un style particulier aussi, tu sais, le développement personnel, la psychopop. Des fois, ça peut être mal interprété ou on peut trouver ça un peu quétaine. Ou, tu sais, il y a toutes sortes de... On est dans un monde où tout le monde a son opinion, anyway.
Oui.
Mais je l'ai trouvé beau, le livre. Je le trouvais beau physiquement parce que je voulais aussi qu'il soit réconfortant pour l'œil. Puis le toucher aussi, j'ai choisi la sorte de papier pour que ça soit doux. Cocooning, tu sais, qu'on se sente bien en lisant le livre. Alors, j'ai eu un vertige, puis après ça, en feuilletant le livre, on dirait que ça m'a apaisé, puis je me suis dit, c'est ça que j'avais à faire. Alors, peu importe le chemin que le livre aura, j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire.
Évidemment, c'est le livre le plus personnel que tu as fait oui, jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une fierté différente des livres de recettes, par exemple?
C'est sûr qu'un livre de recettes, mon combat, c'était, ben, pas mon combat, mais ma mission, c'était que les gens apportent un peu de végétarisme dans leur quotidien. Je voulais pas que la planète devienne végétarienne, c'est pas ça mon but, mais c'est que grâce au livre, tu vois des belles images, aïe, aïe, ça a l'air bon ça, et...
On va le faire.
On va le faire. Alors, cette journée-là, tu fais, ah, ben c'est un repas de viande de moins, puis on le sait aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur la planète que... Diminuer notre consommation de viande, c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète. Bref, faut pas devenir nécessairement végétarien si on ne l'a jamais été, mais juste être conscientisé à ça. Alors, mes livres de recettes, c'est un peu ça, le but du livre de recettes. Alors que là, le livre, c'est plus au niveau personnel, c'est plus aller chercher un réconfort chez le lecteur, chez la personne qui va lire, quelqu'un qui vient de vivre une épreuve, quelqu'un qui trouve que sa vie n'est pas à son goût, ben, je me dis à la lecture du livre, peut-être que ça peut redonner espoir. Puis je reçois des commentaires en ce sens-là extraordinaires, vraiment, depuis qu'il est sorti.
C'est précieux ça que les gens prennent du temps, parce que la lecture, c'est quelque chose de très oui. intime.
C'est vrai.
La télé, ben, ça joue pendant qu'on est dans la cuisine. Des fois, c'est juste une toile de fond. Le livre, souvent, on est assis.
Oui.
Puis c'est un moment qu'on se garde tout oui. seul avec un livre. Que des gens, dans tout ce qu'il y a de possibilités de livres, choisissent le oui. tien et qui gardent du temps pour ce que tu as écrit.
Sûr. C'est tellement touchant. J'étais au Salon de Gatineau la fin de semaine dernière et j'ai pas arrêté de signer là, pendant les deux jours j'étais là. Je voyais les gens en file, puis je signais, puis je me disais « Aïe, aïe, quelle gentillesse, premièrement, puis quelle confiance que les gens me font, tu sais, de choisir mon livre. Il y en a des milliers de livres. Alors, choisir le mien pour entrer en contact avec eux-mêmes, je trouve que c'est vraiment une marque de reconnaissance extraordinaire.
Joël, du réconfort, t'en as eu évidemment besoin toute ta vie, mais il y a 4 ans
oui.
est arrivée l'histoire qu'on a vue dans les journaux.
Oui.
Et ça a été un peu le début de tout ce processus-là.
Oui, tout à fait.
Pour toi, qu'est-ce que ça a déclenché, tout ça, par la suite?
Bien, c'est-à-dire que... c'est une remise à zéro, à vrai dire. C'est comme si le compteur s'arrêtait du jour au lendemain et là, tu as le choix. Ou tu arrêtes tout pour toujours ou tu décides de continuer. Puis ben moi, j'ai décidé de continuer parce que j'avais une famille, parce que mes enfants m'ont comme motivé à continuer d'exister puis continuer à être important aussi pour quelqu'un. Alors, à travers ça, c'est sûr que la thérapie a été extrêmement réconfortante et importante dans ma vie. Puis aussi de me rebâtir, tu sais, c'est-à-dire, mais sur d'autres bases. Parce que mon métier, pour moi, c'était presque ma seule identification. Je m'identifiais beaucoup à mon métier. Donc, quand je travaillais, j'avais du bon sens. Quand je travaillais moins, hop, j'étais moins bon, selon ma propre vision de moi-même. Et tout ça part de, tu sais, sur ce sur quoi on s'accroche dans la vie, part beaucoup des blessures d'enfance. Donc moi, très jeune, il y avait beaucoup de honte qui était présente dans ma vie, mais que je me créais moi-même, parce que j'étais très différent. Tu sais, je viens d'un tout petit village où, quand ce que tu veux faire les fins de semaine, c'est danser à claquettes, m'a dit, c'est très, très... différent des autres.
Oui, parce que tu es d'un milieu agricole.
Oui, très exact. Donc, tous mes amis, eux, ce qu'ils voulaient, c'est prendre la relève de leur père plus tard, alors que moi, c'était pas ça du tout. Moi, je voulais aller chanter avec Michel Richard. T'sais. Fait que c'était comme deux univers complètement différents. Donc, j'ai appris très tôt à arrêter de parler de ce que je désirais pour pas être trop écœuré et d'entrer comme dans une espèce de moule. Mais tout ça, ça crée une espèce de honte ou bref. Et tout ça, moi, quand 4 ans est arrivé mon chapitre douloureux, bien, c'est tout ça que ça a fait remonter. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que j'aille régler ça. Il faut que j'aille voir c'est quoi cette honte-là que je traîne depuis toutes ces années. Cette honte qui s'est transformée en performance. Parce que pour pas qu'on soupçonne la honte que j'ai, je vais tellement être performant qu'on va dire, hey, lui, mon Dieu, quelle confiance en lui il a. Donc, on ne pourra jamais soupçonner la honte qui est présente. Bref, avec plein de thérapies, plein de trucs que je suis allé faire aussi, mais très terre-à-terre. Je suis un gars terre-à-terre. Tu sais, je ne suis pas allé méditer là, sur un mont en Asie. C'était pas ça l'affaire. C'était très terre-à-terre. Puis pour rester aussi en contact avec mes enfants, être là, puis le moment présent avec les enfants, c'est extraordinaire. Donc, jour après jour, puis mes filles étaient toutes petites. Donc, comment elles avaient besoin de moi et comment, comme père, j'ai pu m'identifier. Et comme être humain, j'ai pu m'identifier. Donc, tranquillement, pas vite aussi, reprendre le dessus sur tout ça et voir que j'étais beaucoup plus qu'un artiste, que je suis un être humain. Puis que même s'il fait des gaffes, même s'il tombe, ben j'ai quand même une certaine valeur et c'est à moi à retrouver cette valeur-là. Donc, mais mes parents étaient très importants, ma famille, mon conjoint, les amis, même les gens aussi là, sur la rue, les beaux commentaires que j'ai toujours reçus. Bref, tout ça fait en sorte que j'ai pu m'en sortir, mais d'où vient le titre du livre, « La force insoupçonnée du réconfort », je ne pensais pas que le réconfort avait une telle puissance sur un être humain.
Parce qu'il y a le réconfort de plein de monde près de toi, mais dans le livre, on comprend aussi qu'il y a eu du réconfort de gens que tu connais pas,
oui,
ou peu,
oui,
des gens en voyage,
oui,
une voisine qui oui, est venue te porter des cadeaux.
Oui.
Il y a tout ça aussi.
Mais
il y a,
l'être humain
on
ne
sait
bon,
pas comment on peut faire du bien à quelqu'un,
exact,
avec un petit geste,
exact,
bien simple parfois.
Parce qu'en écrivant, justement, dans le livre, je me disais, cette voisine-là, mettons, si un jour elle lit le livre, elle ne pourra jamais se rendre compte que le geste qu'elle a fait a été si important pour moi. Mais on n'est pas conscient de tout ce qu'on peut apporter aux gens autour de nous. Des fois, tu regardes quelqu'un dans la rue juste faire un beau sourire et tu ne sais pas ce que ça va apporter à cette personne-là. C'est sûr que si tu fais un doigt d'honneur, là, tu sais ce que ça va y apporter,
oui,
puis c'est pas le fun. Fait que c'est toujours essayer de transformer nos, je sais pas, nos excès de colère ou nos excès de... Parce que des fois, oui, on en a par-dessus la tête puis on trouve que la vie va trop vite, mais c'est comment est-ce que je fais pour me ressourcer, pour être une meilleure personne possible tous les jours, parce que justement, on ne sait pas le bien qu'on peut faire.
Pour camoufler ta honte, on peut dire ça comme
ouais,
ça, tu t'arrangeais pour être parfait dans ta job,
ouais,
aucune faille. Est-ce que
ouais,
c'était lourd à porter par moment? Parce que
c'est, sûr,
c'est une pression immense que tu te mets, tu n'avais pas le droit à l'erreur. En tout cas, tu ne te le donnais pas.
Non. Puis pas de récompense non plus. Tu sais, mettons, je faisais quelque chose dont j'étais fier. C'était, OK, le récompense-toi pas pour ça. La prochaine étape, tu te récompenseras. Tu donneras une petite gâterie, tu feras... Alors que c'est l'ombre réclame autant son dû que la lumière. Tu sais, quand tu es dans la lumière, là, ben on a tous un côté ombragé puis un côté lumineux. Mais si tu fais comme si ton côté ombragé n'existait pas, ben un jour ou l'autre, il va ressortir puis il va prendre toute la place parce que tu n'as pas le choix de donner. Tu sais, quand je te dis, maintenant, je me récompense, je vais donner un exemple. Mettons, je fais un tournage, la journée finie, je suis content, je trouve que ça a bien été, c'était le fun. Ben avant, j'aurais fait, OK, là, au contraire, tu vas pas te gâter, tu prends ça puis tu es capable de faire encore plus. Là, maintenant, je fais, moi, j'adore les Joe Louis.
OK. Que,
ben c'est végétarien, Joe Louis. Il n'y a pas de viande là-dedans. Fait que... Ce que j'aime faire, c'est, mettons, j'ai des Joe Louis, puis j'aime ça dans le congélateur. Fait que j'entraîne toujours un peu, puis quand je suis content, bien, le soir, en arrivant du travail, après le souper, j'ouvre mon Joe Louis. Mais te dire comme il est bon. Puis ça, c'est ma récompense. Puis c'est rien, mais c'est juste pour apprivoiser, je le donne. Tu sais, mon ombre, t'as envie de ça, de te gâter une petite cochonnerie, bien, envoie, tu y as droit. Prends-le, c'est humain. L'humain n'est pas parfait. Alors, arrête de vouloir toujours être le plus parfait que parfait. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Alors, voilà. C'est la façon dont j'ai intégré l'ombre dans ma vie.
As-tu plus d'équilibre maintenant entre ta vie professionnelle et ta vie familiale? As-tu réussi à faire ce passage-là d'un à l'autre?
Mais c'est clair.
Parce que là, c'était que la job.
Exact. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup la job. Puis la culpabilité de ne pas être assez là pour les enfants, d'essayer de les amener. Tu te rends compte que tu te sens coupable partout. Alors que maintenant, je donne souvent l'image aussi d'un équilibriste. T'sais, c'est quelqu'un qui est sur un fil de fer et on lui met toujours... Il y a comme une grande barre qui passe de chaque côté. Il y a toujours deux paniers de chaque côté pour l'aider à garder son équilibre. Bien, c'est ta vie personnelle et ta vie professionnelle qui représentent les deux paniers. Si dans ta vie professionnelle, tu mets 90 %, bien, un jour ou l'autre, tu vas perdre l'équilibre, tu vas tomber, c'est clair. Alors qu'aujourd'hui, j'essaie d'équilibrer. Quand je sais que j'ai une période où je travaille plus, bien, je le dis aux enfants puis je dis « on va se reprendre ». Puis là, la semaine qui suit, je me mets des heures précises où je suis avec les enfants parce qu'il faut créer cet équilibre-là. Moi, en tout cas, dans ma vie maintenant, c'est ce que ça prend. Ma vie, c'est une tarte, puis elle est séparée en pointe. Puis l'amitié, l'amour, la famille, le travail, le loisir, tout ça, c'est séparé et j'essaie que ce soit le mieux réparti possible.
Es-tu plus réconfortant envers toi-même? Tu as dit tout à l'heure que c'était le bout le plus difficile. Est-ce que tu réussis à le faire maintenant?
Exact. Mais tu sais, quand je m'offre mon Joe Louis, ça, c'est mon réconfort. Bon, je fais un peu que manger des Joe Louis, là. Je manque d'autres affaires aussi. J'adore le chocolat, par exemple, tu sais. Puis j'adore faire du chocolat. Alors, je suis allé suivre un cours de chocolatier aussi. Puis ça, c'était pour trouver autre chose comme passion aussi. Parce que, tu sais, on aime notre métier, on en mange. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses dans la vie aussi. Il n'y a pas que ça. Alors, j'ai fait ça justement cette semaine, c'était la semaine de relâche avec mes filles, on a fait du chocolat, fait notre propre caramel, puis ça, là, ça me remplit de bonheur, là, puis c'est une activité avec les enfants, puis je trouve que c'est ça vraiment, donc je m'offre maintenant du réconfort, oui, avec beaucoup plus de facilité.
Le livre est dédié à tes parents, pourquoi c'est important pour toi de le dédier à eux?
Bien, parce que j'ai eu des parents qui nous ont eu très jeunes, ma sœur et moi, j'ai eu deux frères 10 ans plus tard, toujours des mêmes parents, mais à 17 ans, ma mère, elle a eu ma sœur et à 19 ans, elle m'a eu. Donc, c'était de jeunes, tu sais, aujourd'hui, je peux pas croire qu'à 17 ans, ma mère avait déjà un enfant. Je regarde mon fils, il va avoir 17 ans cet été.
Tu peux pas t'imaginer grand-père.
Hey my God! Qu'il m'arrive pas avec un enfant, je sais pas ce que je vais faire. Mais bref, je trouve qu'ils ont été très courageux et persévérants. Et c'est sûr qu'à cet âge-là, tu t'en fais des mauvais choix, puis t'en fais des gaffes, puis tu tombes, mais ils se sont toujours relevés. Donc, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Et c'est ce que j'ai voulu enseigner à mes enfants aussi à travers ce livre-là. Peu importe tout ce qu'on va trébucher dans la vie, l'important, c'est de se relever et d'avancer et de continuer. Alors, c'est pour ça que le livre est dédié à mes parents. Ça ne pouvait pas être à d'autres qu'à eux.
Tu parlais tout à l'heure du fait que tu étais différent plus jeune. Évidemment, un jour, tu annonces à tes parents que tu es homosexuel et ça passe très bien.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Non. Est-ce que ça t'a rendu ça plus facile?
C'est sûr. Mais tu vois, c'est l'avantage d'avoir des parents jeunes. Le désavantage, c'est qu'on a mangé beaucoup de soupe Lipton parce que ma mère, elle cuisinait pas à 17 ans. Elle n'avait pas su comment faire encore. Mais quand tu vieillis, tes parents sont encore tout jeunes. Donc, ils sont ouverts d'esprit. C'était des parents de leur génération. Alors, quand j'ai annoncé ça à mes parents, ça a super bien passé, à ma famille aussi, mais encore là, c'est mon sentiment de honte. Je me sentais honteux d'être différent des autres, puis le fait d'être homosexuel, je me disais, aïe aïe, je vais décevoir mes parents, ils vont avoir de la peine, je pourrais pas avoir d'enfant, parce qu'à l'époque, j'avais 18 ans quand je l'ai annoncé. Des mères porteuses, ça n'existait pas. Des adoptions à l'international pour des parents célibataires, ça n'existait pas non plus. Donc, pour moi, mon plus grand deuil à faire, c'était que je ne serais jamais père à cause de mon orientation. Et aujourd'hui, mon père me dit toujours, si j'avais pensé que c'est mon gars qui est gay qui m'aurait donné le plus de petits-enfants, parce que mes sœurs et frères en ont un chaque, puis moi, j'en ai trois, tu sais, fait que... C'est fou la vie des fois, comme on ne peut pas savoir. Alors, mon père est fier, là, comme si c'est pas possible.
Est-ce que ton fils a lu le livre?
Oui, il a lu le livre.
Comment il a réagi? Parce qu'évidemment, il en apprend beaucoup sur toi à travers ça. Il en connaît beaucoup, oui. Évidemment.
Je dirais qu'il n'a pas appris grand-chose sur moi, mais il a appris beaucoup de choses sur lui, par exemple. Parce que je parle de quand je suis allé chercher en Chine, je parle des nounous. Puis tu sais, dans la vie de tous les jours, on mange, puis je ne dis pas à mon fils, « Hey, tu te rappelles-tu? » Il ne se rappelle pas, premièrement, il avait même pas 2 ans, mais... Donc, j'ai parlé de son histoire, mais pas vraiment en détail. Alors là, le fait que je lui lise, puis c'est moi qui lui ai lu le livre, à vrai dire. J'avais envie de lui lire. Fait qu'il était à côté de moi, puis je lui lisais chapitre par chapitre. Puis ça a duré des semaines, parce que j'y ai pas lu 250 pages d'une journée, là, l'écœuré ben raide de son père. Fait que, mais il y a certains moments où là, il a compris. Il a compris qui il était. Il a compris l'importance des nounous qui ont pris soin de lui parce qu'il n'avait pas de parents. Donc, il a été très touché par ça aussi. Puis touché probablement parce que je parle de lui dans mon livre aussi. Ça lui a donné probablement une importance qu'il ne pensait pas qu'il y avait autant dans ma vie.
Est-ce que ça passe par la bouffe aussi, le réconfort?
Bien sûr. Ça passe par tous les sens, à vrai dire. Si je parle beaucoup dans le livre de l'odorat, comment l'odorat peut nous amener là, en arrière. Puis souvent, c'est la bouffe aussi. Là, je sais pas, un pudding chômeur cuit, là, mettons, dans une maison. Moi, là, je me revois chez ma grand-mère, direct. L'été, je passe devant du muguet ou du lilas. Là, je me revois sur la ferme parce qu'on en avait beaucoup. Ça a un pouvoir extraordinaire. Là. L'odorat nous ramène là, des années en arrière en une seconde. Puis tu peux aller... chercher ce réconfort-là, puis l'emmagasiner, et les journées où ça va un peu moins bien, te rappeler ces moments-là qui faisaient tellement de bien quand on était plus petit.
Ce livre-là, c'est aussi une façon de fermer une boucle, une parenthèse, de faire la paix avec des trucs du passé, de rectifier le tir. Est-ce que la cinquantaine, ça amène ça aussi?
Oui, je pense que oui.
Est-ce que cette réflexion-là est arrivée à peu près autour de ça?
Oui, tu as raison. C'est déjà à 49 ans, là, tu dis, OK, j'ai un bilan à faire. J'ai 50 ans, tu sais... C'est sûr que c'est probablement pas ça, mais on dit toujours que c'est le milieu, moitié, ouais. T'sais, alors que, bon, on souhaite tous de vivre jusqu'à 100 ans, mais en santé. Mais bref, le pudding chômeur vient d'arriver. C'est sûr que c'est une réflexion. C'est un bilan, mais j'essaie d'en dresser un le plus positif possible. Et mes blessures que je suis allé travailler, ben je voulais pas les traîner dans la cinquantaine. Alors... Et encore moins dans la soixantaine. Je veux être de plus en plus léger. Puis j'ai l'exemple de ma mère aussi qui à mes côtés. Puis c'est vraiment une femme qui a travaillé beaucoup, beaucoup sur elle. Puis elle dit toujours qu'elle a investi en elle plutôt que d'investir dans l'immobilier. Et je pense que c'est la bonne affaire à faire. Parce que plus on grandit, plus on vieillit, plus les blessures qui n'ont pas été guéries ou qu'on n'a même pas osé regarder, en vieillissant, ça ressort, c'est sûr. Alors, je pense qu'il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour que nos dernières années ou nos dernières décennies soient beaucoup plus légères.
Tu avais même une correspondance avec ta mère.
Oui.
Ça, c'était réconfortant aussi.
Exact. C'est, à vrai dire, la première fois que j'ai vraiment écrit, c'est avec ma mère. J'étais pensionnaire, donc pendant 5 ans. Et pour moi, ça a été très pénible. J'étais pas capable de quitter la maison les dimanches soirs. Là, c'était épouvantable, les blues. Là, puis encore aujourd'hui, si je fais pas attention, des fois, je dis « Voyons, qu'est-ce que j'ai? » Ah ben oui, on est dimanche soir.
Oui, ah oui, OK.
Comme le vendredi. Le vendredi, c'est le contraire. On quittait le pensionnat à 3 heures. Le vendredi, des fois, j'ai un moment d'euphorie. Je dis « Voyons, c'est quoi? Qu'est-ce que... » Ah, c'est parce que je vois Luc de Noncourt, c'est-tu pour
et
ça?
Et voilà, et
non.
Voilà.
Je t'annonce, c'est pas à cause de toi. C'est à cause que. C'est à cause que je sortais du pensionnat, puis le pudding chômeur m'attendait chez ma grand-mère. Bref, alors oui, c'est.
Et t'écrivais des lettres, c'est ça?
J'écrivais donc des lettres à ma mère parce que je m'ennuyais beaucoup, beaucoup. Et tous les dimanches, quand j'arrivais, j'avais une lettre que ma mère m'avait écrite. Et là, moi, dans la semaine, j'en écrivais une autre. Puis le mercredi, j'allais lui poster ça. Donc, c'était le fun parce que je pouvais sortir du pensionnat. Il y avait une boîte aux lettres au bout du chemin. Fait que j'avais le droit. Le frère me laissait sortir. Puis j'allais porter ma lettre. Et là, quand j'arrivais le vendredi, ben ma mère me parlait de la lettre. Puis moi, j'y parlais de la lettre qu'elle m'avait envoyée. Bref. Et je dis aussi dans le livre qu'on a arrêté d'écrire. On correspond presque plus maintenant. On envoie des textos, c'est trois mots, puis that's it. Mais écrire une lettre à ses enfants aussi. Ma mère a fait ça avec ses quatre enfants, et j'ai encore cette lettre-là. Où est-ce qu'elle parle, comment elle est fière de moi? Mais tu sais, j'étais tout petit, je vais avoir 10 ans peut-être. Mais j'ai fait l'exercice avec mon fils. Je vais le faire avec mes filles bientôt. Parce que 4 ans, je ne suis pas sûr qu'ils vont vraiment comprendre. Mais tu sais, 5-6 ans, vraiment leur dire qu'est-ce que je vois pour elles ou plus tard dans leur vie. Quel genre de personnalité je pense qu'elles vont avoir? Quel genre d'humain elles vont être? Et ça fait tellement du bien. Là. Ça, c'est du réconfort aussi. Là, tu dis, aïe, aïe, mon papa a pris le temps de m'écrire une lettre où il voit en moi ce que probablement je ne vois même pas encore en moi. Mais ça me donne envie d'être une meilleure personne possible.
On parlait tout à l'heure de la honte du passé. Évidemment, avec les réseaux sociaux, il y a un bout où tu as pris un recul. Est-ce que c'est difficile de gérer ça? Parce qu'évidemment, il y a tout sur les réseaux sociaux. Il y a les beaux commentaires, mais aussi du monde pas très sympathique là-dessus. Oui. Est-ce qu'on réussit à faire la paix avec ça?
Oui, je pense que oui. Parce que moi, ce que je me dis maintenant, c'est quand je lis quelque chose de vraiment méchant, soit à mon égard ou à n'importe qui, je me dis... cette personne-là est vraiment malheureuse. Parce que, rappelons-nous, la première journée où on a rencontré l'amour de notre vie, tu sais, on vit d'amour et d'eau fraîche pendant des jours et des jours. T'as pas envie, pas en tout, d'aller écrire une bêtise à quelqu'un ces journées-là. Alors, j'ai l'impression que c'est le malheur de la personne, la tristesse, fait en sorte que cette personne-là vient à un moment donné où elle en veut à tout le monde de pas être heureuse. Alors, elle projette sa négativité ou son non-estime qu'elle a pour elle, elle projette sur les autres et ça lui fait du bien que l'autre personne se sente comme elle se sent. Alors, ça fait longtemps que j'ai arrêté de lire les réseaux sociaux au premier degré. Alors, autant les super bons commentaires, je fais « Hey, c'est vraiment gentil, mais j'en prends et j'en laisse », autant les très méchants commentaires, je fais « Pauvre personne, a vraiment besoin d'amour, c'est juste… » Alors, je le prends plus pour moi. Et je pense que c'est une bonne façon de continuer à évoluer avec les réseaux sociaux, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. On a l'impression que tout le monde veut bâcher tout le monde. Et ça sert à quoi? C'est quoi cette haine-là qu'on a comme être humain envers un autre être humain, au lieu d'avoir le contraire, la compassion, le pardon, l'amour, la compréhension? On a tout ça en nous aussi. Alors, pour moi, c'est des gens qui sont très malheureux.
Il y a aussi le réconfort de tes collègues de l'industrie, parce que tu es revenu au travail, Véronique Cloutier, t'as repris dans Les Fantastiques. Est-ce que c'est un cadeau, ça, quand nos amis, nos collègues disent on veut retravailler avec Joël?
C'est clair, ben oui. Puis d'être assez fort pour se dire, hey, peu importe ce que le monde va dire, moi, c'est avec cette personne-là que je veux travailler, puis je vais le faire. Alors, c'est sûr que après une épreuve, là, tout devient un cadeau. À vrai dire. Tu sais, tu repars à zéro et chaque geste, tu l'apprécies vraiment et tu vois vraiment tout ce qu'il y a derrière le geste. Tu vois la bonté de la personne. Tu sais, Véronique, c'est vraiment, c'en est une. C'est une amie loyale, gentille, qui a connu elle aussi des tempêtes dans sa vie. Donc, elle est capable de comprendre quelqu'un qui a vécu une tempête. Tu sais, la compassion, là, tu peux vraiment être un être compatissant si tu as vécu un jour ou l'autre quelque chose de terrible, parce que sinon, tu ne développes pas cette compassion-là. Alors moi, aujourd'hui, peu importe la personne, peu importe l'acte, peu importe, quand je vois, mettons, en première page d'un journal, quelque chose d'épouvantable sur quelqu'un, même si le geste est épouvantable, je vois quand même, je suis obligé de regarder et je vois cette personne-là en boule, dans son sous-sol, complètement en détresse, complètement avec ses blessures d'enfance, qui l'ont poussé à faire tel ou tel geste. Donc, c'est plus à moi de juger l'être humain. Je n'ai rien à juger de personne. Moi, je peux être là, par exemple, pour réconforter quelqu'un, pour y envoyer un petit mot malgré l'adversité, malgré tout ça. Je suis qui, moi, pour juger quelqu'un d'autre? Et on m'a dit, la personne qui juge a déjà fait pire.
Ah oui, oui.
Parce que sinon, tu n'as pas envie de juger la personne si tu n'es pas en lien avec ce que la personne a fait.
Ça fait plus que 30 ans qu'on te voit dans notre télé, Joël.
Inimini Magimo
en 87, enfant en forme. Ensuite, ça était beaucoup la télé jeunesse départ pour toi. Tu as marqué une génération. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces gens-là qui travaillent dans le métier que tu recôtoies. Ça te fait quoi de voir que ces shows-là auxquels tu as participé ont touché une génération d'enfants?
Bien, c'est très drôle parce que moi, à l'époque, c'était Franck Freluche, c'était Larry Boulding, Jean-Louis Miette, moi, Jean Paillasson. La journée où je suis rentré à Radio-Canada pour aller passer mon audition d'Inimini Magimo, j'ai croisé Jean-Louis Miette. Et il m'a dit bonjour, j'ai figé ben raide, je n'étais même pas capable de répondre. Alors aujourd'hui, des fois, quand les gens qui font le métier ou me croisent et je sens qu'ils sont gênés parce que j'étais dans leur télé quand ils étaient petits ou souvent c'est parce qu'ils ont écouté Inimini Magimo qu'ils ont voulu faire ce métier-là, j'ai compris d'être un peu maladroit puis de devenir rouge. Puis Claude Pelgag, qui est une jeune chanteuse émergente, tu sais, qui a gagné à la disque interprète de l'année, tout ça, elle m'a téléphoné l'année passée pour que j'aille chanter avec elle Un nouveau monde, qui était sa chanson préférée quand elle était petite, chanson d'Aladin. Et j'ai trouvé ça bizarre parce qu'elle est tellement space, tu sais, je dis, mon Dieu. Fait que oui, je suis allé. Et en répétition, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et je comprenais parce qu'elle dit, je peux pas croire, je chante, c'était mon rêve de chanter avec Aladdin. Puis là, ben oui, mais je suis pas Aladdin, là, c'est pas moi, là, je vais pas t'amener.
Pas de tapis volant.
Non, pas de tapis, j'ai pas trois vœux, il y a rien à frotter, ça marche pas. Mais elle était vraiment impressionnée Puis je peux la comprendre parce que moi aussi, j'ai été impressionné par des idoles que j'avais quand j'étais jeune, comme une Dominique Michel que j'ai croisée un jour, puis que je n'étais même pas capable d'y parler parce que moi et l'autre, ça a bercé mon enfance, puis je ne peux pas croire que j'étais à côté de la vraie Dominique Michel, puis qu'elle sache mon nom. J'en revenais pas. Alors, je peux comprendre. Mais bref, ça fait toujours plaisir, c'est sûr.
Enfin, en forme, c'était avec Élise Marquis, oui. Ton amie.
Oui.
Est-ce que c'est là que l'amitié s'est créée? Parce que je sais que vous avez été coloc aussi.
C'était avant ça, à vrai dire. On était à l'école de théâtre. Elle était en première année, puis moi, j'étais en troisième année. Donc, je m'apprêtais à quitter ma cohorte. Et quand on s'est rencontrés, ça a été un vrai coup de foudre. Mais d'amitié, là, ça a été comme mon âme sœur.
Et on se connaissait pas.
Et encore
proche,
aujourd'hui, c'est la marraine de mon fils. Je suis le parrain de sa fille. Demain, elle vient passer la journée. Alice, sa fille, est comme la troisième des jumelles. C'est comme la triplette de mes filles. Ils viennent souvent, puis elle est extraordinaire avec les filles, puis les filles l'adorent. Fait que là, j'ai dit aujourd'hui qu'Alice allait venir, en même temps qu'on a dit qu'on allait voir Disney on Ice.
C'est Noël, là, chez vous. Là.
Mais il était plus content de voir Alice demain que d'aller voir Mickey Mouse. Fait que ça donne une idée. C'est Alice au Pays des Merveilles.
Et voilà. Depuis quelques années, tu fais de la mise en scène.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'apporte, ce côté-là, cette espèce de recul? Parce qu'évidemment, quand on fait de la scène nous-mêmes, c'est difficile d'avoir un recul,
oui.
Mais la job du metteur en scène, c'est ça. Ben, c'est l'espèce de recul de vue d'ensemble du projet qu'on présente.
Exact. Puis c'est une autre partie de la créativité aussi. Tu sais, quand tu es comédien, tu es sur scène, donc tu veux répondre aux besoins du metteur en scène. Il dit non, fais-les plus comme ça. Alors, tu es comme plus actif. Et quand tu es metteur en scène, là, c'est à toi de diriger les gens comme tu... Donc, un metteur en scène, c'est lui qui choisit le décor, qui choisit les accessoires, qui choisit pas nécessairement le répertoire. Ça se fait avec la chanteuse ou si c'est une pièce de théâtre, c'est pas nécessairement moi qui ai choisi la pièce. Mais ensuite, c'est comme imaginer tout ça. Et là, je travaille sur Les Immortels, qui est un spectacle où...
Qui s'en viennent ici l'automne
exact,
prochain.
Donc, Beko, Johnny Hallyday, Dalida, Edith Piaf, Gilbert Beko. Donc, c'est 5 jeunes qui vont chanter les univers des Immortels. Et là, je travaille ça présentement et c'est un véritable plaisir de dire, OK, Dalida pourrait chanter en duo avec Johnny Hallyday, par exemple, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, mais d'imaginer des trucs, c'est vraiment... je sais pas, il y a comme une... Je ne sais pas comment dire, mais il y a une fierté à faire de la mise en scène et que mes artistes sur scène, parce que je les appelle mes artistes parce que ça devient comme mes enfants, soient le mieux possible, le plus heureux possible. Moi, c'est ce que je veux. Que chaque soir, quand il va être le temps de faire leur show, qu'ils vont dire « Ah, je suis content, puis je vais en parfaite liberté parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Mon show, il est bien dirigé. » C'est ce que j'essaie de faire.
Mais c'est un magnifique exercice de lâcher prise, parce qu'une fois que le show part, toi, tu peux plus rien faire. Tu es assis dans la salle, puis tu peux juste regarder ce qui se passe, puis
non,
faire confiance
des notes.
À la suite. Oui, mais pendant le show,
moi,
tu peux rien faire.
Pendant le show, je peux pas rien faire.
Tu peux corriger après. Ouais,
après. Ouais. Mais moi, je suis de l'école de Denise Filiatro. C'est elle qui m'a appris mon métier de metteur en scène.
À quelle heure le punch?
À quelle heure le punch? Puis ce qu'on a placé, viens pas faire ton fin finot, fais pas d'autre chose. Parce qu'il y a du public, c'est tout, c'est pour le respect, à vrai dire, respect de tes compagnons avec qui tu travailles. Parce que si il y en a, tu sais, qui sont très très discrets, arrive la première, puis là ils explosent. Alors oui, c'est super, mais tes compatriotes avec qui tu travailles t'ont jamais vu comme ça, donc c'est déstabilisant. Donc donne tout ce que t'as à donner tout le temps, puis en plus respecte la mise en scène, et respecte le public aussi. Puis Denise disait toujours, les gens ont travaillé fort pour payer le billet, je veux qu'il y en ait pour leur argent. Et ça, c'est resté dans ma tête tout le temps, tout le temps. Donc, je travaille le plus fort possible pour insuffler à mes comédiens ou à mes chanteurs de travailler le plus fort possible pour que le public en ait le maximum pour leur argent.
C'est comment travailler avec Denise, justement? Parce qu'elle a une réputation qui la précède, évidemment. Est-ce que c'est si pire que ça?
Non, c'est pas si pire. C'est que c'est une femme extrêmement exigeante envers elle-même. Donc, elle exige beaucoup de l'autre aussi. Et si t'es pas prêt à performer ou à être au meilleur de toi-même à chaque instant de la répétition, ben t'es mieux de travailler avec quelqu'un d'autre. Alors, je pense pas qu'elle est si pire. Je pense que c'est des matchs, des fois, qui fonctionnent pas. Parce que quelqu'un qui arrive en retard, ça passera pas. Parce qu'elle vient des cabarets, elle l'a eu à la dure, elle a travaillé fort, puis... Elle ne peut pas... Les enfants rois, là, a bien de la misère avec ça. La génération, là, des milléniaux, Et je suis pas sûr que c'est le meilleur match possible, tu sais, qui arrive en retard, mais en plus avec un café. Donc, il arrive 15 minutes, mais il a eu le temps
d'arrêter chercher un café.
Chez Tim Hortons, ça cherchait un café. Tu sais, hey, il y a vraiment un problème, tu sais. Alors, ça passe moins. Mais si tu donnes le maximum de toi, elle va tellement être généreuse, puis t'enseigner tous les rouages du métier parce qu'elle a une expérience incroyable. Fait que c'est une très, très bonne coach et une très bonne metteur en scène aussi.
T'es beaucoup au Québec dans les dernières années avec Émilie Cerretti.
Ah oui.
À aller décorer des pièces rapidement des gens. C'était comment cette expérience-là pour
toi? J'ai adoré ça. Moi, premièrement, je ne croyais pas du tout à ce concept-là. Ouvrir, on ne sait jamais. Donc, le concept, c'est qu'on arrive au hasard, mais vraiment au hasard, chez des gens. Donc, Émilie Cerretti, qui est designer, et moi, qui est comique de service, et qui chauffe le gros camion qui est rempli de trucs. Donc, de meubles, d'accessoires, de coussins, de tissus, de n'importe quoi. Et Émilie spot une maison. Puis on cogne, bonjour, voulez-vous qu'on vous rénove et qu'on vous décore une pièce de votre maison? Je me disais, mais voyons, il n'y a pas un chat qui va dire oui. Les gens travaillent, les gens, ils ne voudront pas qu'on rentre dans leur maison. Ben c'est arrivé une fois sur les 2 ans que quelqu'un a dit non parce qu'il était designer puis que sa maison était à son goût. Tout le monde a dit oui tout le temps. Ça prenait congé du travail ou ça allait travailler puis ça revenait pour voir le résultat. Bref, ça a été exceptionnel. Puis Émilie Cerretti, qui, en plus d'être talentueuse, tellement gentille, puis on s'est liés d'amitié, on a eu du fun ensemble. J'ai appris, moi aussi, plein d'affaires. C'est comme les gens qui écoutent l'émission, tu apprends des trucs rapides. Puis ce qui est très drôle, c'est que les gens, quand on cogne, il y a Émilie et moi, puis une caméra qui est cachée. Fait que la personne a dit bonjour, bonjour, on rentre, voulez-vous? La personne a dit OK, ben venez visiter. Et là, on est 13 à rentrer. C'est ça qu'ils savent pas. Il y en a 11 de cachés dans le camion parce qu'on fait des transformations en 3 heures. Fait que peinturer, décorer, tu sais, on n'y arriverait jamais à 2 ou à 3, là. Fait que c'est toujours ça la réaction. On faisait hey, mon Dieu, je savais pas qu'il y avait tant de monde chez nous. Alors, c'est plus là qu'il était. Mais il était trop tard, il avait dit oui. Fait que là, on rentrait, puis il était fait.
Mais ils ont tous été satisfaits. Ah, parce qu'on les a vus, les transformations. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Là.
Vraiment très beau. Magnifique, pour vrai. Puis moi, j'avais un fun noir à être chez des gens, à fouiller dans leurs affaires, à faire du lavage, à aller faire du gazon, toutes des affaires que je fais pas chez nous, mais être payé pour faire ça chez eux, c'est-tu super? Oui.
As-tu eu le goût de tout redécorer chez toi après? C'est ça le piège quand on fait un show de déco souvent, c'est on pogne des idées, puis après on a envie de tout
retravailler. C'est sûr qu'on a fait une couple d'affaires qu'on a aménagé, mais il y a surtout que il y a des trucs, tu sais, on fait des gros travaux, puis à un moment donné, toutes les finitions rendues là, on dirait qu'on n'a pas envie de les faire. Fait que ça, cette émission-là m'a donné envie de compléter les travaux qu'on avait faits il y a 3 ans.
OK.
Tu sais, mettre les plaintes, les petits corps de rond, toutes les affaires qu'on fait jamais. Là, on a fini par le faire, puis fait que, au moins, ça a donné ça. Puis une couple de pièces aussi qu'on a décorées, que j'ai pris des idées d'Émilie, puis j'avais la chance d'avoir Émilie Cerretti. Ah oui. Donc, d'y montrer une photo, qu'est-ce que tu ferais? Alors, ça, je m'en suis servi.
Et on a pu voir aussi que c'est pas toujours simple de conduire un gros camion dans des petites rues de quartier. Ah, je suis tellement pas
bon. Hey, c'est un gros camion de FedEx, là, mais qui ont récupéré, puis... Mais c'est large, c'est fou. On se rend pas compte comment c'est large, ces camions-là. Alors, quand tu veux tourner, il n'y a pas une fois que je n'étais pas capable de pas pogner un bord de trottoir. Puis, dans le camion, on avait des lampes, on avait des trucs quand même fragiles.
Tu
n'as
pas rien cassé, là.
J'ai tout cassé. Pas tout cassé, mais c'était très rare qu'on remettait quelque chose qui n'était pas un peu bossé ou un peu graffiné. Fait que, mais on le disait en dehors de la caméra, là, madame, on vous le dit, mais tout le monde était super content parce que c'est tout donné, puis c'est des trucs, tu sais, qui valent très, très cher. Fait que des fois, même si c'est une petite graphing, c'est pas plus grave que ça, tu sais, mais c'était très difficile comme contexte de pas maganer des trucs précieux dans une grosse boîte à camion qui est faite pour transporter des colis, là, c'était pas tout à fait pareil.
Joël, j'ai invité les gens à se procurer La force insoupçonnée du réconfort aux éditions de l'Homme. Est-ce qu'il y a un autre livre... recette peut-être, le prochain?
Ben, je travaille sur un prochain livre de recettes. Là. Où est-ce que je veux démystifier? Parce que depuis quelques années, moi, je cuisine, mais du faux poulet, du faux bœuf, du faux canard, du faux foie gras. Donc, tout retrouver les saveurs d'enfance, mais c'est faux, mais ça goûte.
Il y a même du fromage.
Il y a du fromage. Oui, ça, je trouve que ça n'a pas marché. Je trouve que je sais pas, ça goûte la plastine. Mais je vais peut-être finir par trouver quelque chose. Mais bref, j'étais ça sur mon beau-frère, qui lui, c'est un beauceron, qui est 100% carnivore, qui va lui-même chasser son gibier. Et il mange de mon faux poulet, puis mon faux bœuf, puis il adore ça. Fait que je me dis, ah, il y a quelque chose là. Bref, le livre va tourner autour de ça. Ça devrait sortir l'année prochaine.
Parce que c'est ça le défi, c'est qu'on a toujours peur de perdre ces goûts-là.
Oui, quand je fais du faux bacon, hey, c'est écœurant. Tu peux pas le savoir que c'est pas du bacon. Je vous mets au défi. Je vais revenir. Je vais revenir ici avec tout un buffet végétarien.
Joël, merci beaucoup d'avoir été là.
Hey, merci à toi. C'est vraiment très, très agréable.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci beaucoup.